Vous écoutez France Culture.
Comment, 6 heures?
Bonjour tout le monde, nous sommes le mercredi 26 mars, un autre jour est possible. Votre réveil culturel, à la réalisation Thomas Duterre, avec aujourd'hui à la technique Philippe Palares, et au programme d'aujourd'hui, d'abord la série d'Hélène Lee, une autre histoire du reggae. Aujourd'hui, 3e épisode. Ensuite, je serai avec mon invité du jour, le documentariste Daniel Incalcaterra. Nous parlerons de son film qui sort aujourd'hui, L'Impénétrable. Mais tout de suite, le reggae. Une autre histoire du reggae avec Hélène Lee, spécialiste du genre. Aujourd'hui, 3e épisode, le pinacle. On est où là?
Alors, juste avant d'arriver au pinacle, je me permettrai une toute petite parenthèse. Pourquoi Léonard Percival Howell, donc ce petit immigré qui avait passé 20 ans à voyager autour du monde et qui avait terminé à Harlem, dans le flamboyant Harlem des années 20, pourquoi brusquement se retrouve-t-il en Jamaïque? Tout simplement parce que la grande crise a frappé. En 1929, tous les business qui lui permettaient de survivre plus ou moins à Harlem se sont effondrés. Il s'est retrouvé à faire le chauffeur d'un espèce de personnage du milieu un peu bizarre. Évidemment, il s'est fait prendre. Évidemment, son patron s'en est tiré. Évidemment, c'est lui qui est allé en prison pour avoir conduit la voiture du patron. Et donc, il se retrouve en prison pour 2 ans, juste au moment où Haïlé Sélassié vient d'être couronné. Et au moment où il entre en prison et où il va donc passer 2 ans à se gratter la tête et à réfléchir et à lire des bouquins, il apprend qu'il y a en Éthiopie un roi des rois qui vient d'accéder au pouvoir et qui est en plus un personnage mystique avec une extraordinaire légende derrière lui de descendant de Salomon et de la reine de Saba. Et il lit la Bible et il s'aperçoit que les titres de Haïlé Sélassié sont exactement les titres de l'agneau de l'Apocalypse. Et pour lui, c'est la révélation. Sélassié est revenu, c'est le Christ noir revenu pour amener vraiment le peuple noir à sa rédemption, maintenant que Marcus Garvey a été emprisonné et chassé du pays. Donc, voilà donc notre Howell en prison pour 2 ans. Il est libéré, il est rapatrié en novembre 1932 et il rentre donc en Jamaïque. C'est loin d'être Harlem, c'est encore un pays colonial totalement arriéré avec des mentalités moyenâgeuses.
Mmh. Et rural surtout.
Et rural. Et il trouve d'abord des alliés dans la communauté indienne. Parce que la communauté indienne, à cette époque, c'est des gens qui, essentiellement, sont nés en Inde, ne sont absolument pas acculturés, et lui donnent l'idée d'une culture, de ce que pourrait être la culture africaine si on l'avait pas laminée par l'esclavage. Et donc, il prend un peu exemple sur ces Indiens, sur leur culte, sur leur musique, sur leur chant, sur leur prière, sur leurs vêtements, sur leur nourriture. Et il est émerveillé par cette culture indienne et il se rapproche beaucoup des Indiens. Il se rapproche aussi de toutes ces mouvances immigrées qui habitent alors la Jamaïque. Il y a des Chinois qui sont venus au tout début du XXe siècle, il y a des Libanais, il y a des Indiens, il y a toutes sortes de communautés comme ça qui sont un peu venues remplacer les esclaves et faire le boulot, puisque maintenant les esclaves étaient chassés de tous les postes. Et toutes ces communautés ont, elles aussi, rêvé d'une terre promise. Mais pour elles, cette terre promise, c'est la Jamaïque. Ils sont arrivés ici et ils essaient de se construire des petites terres promises, chacun à leur manière. Et Howell fait partie de ces gens-là, des espèces d'immigrés de première génération, bien que lui soit jamaïcain d'origine, des gens qui ont décidé qu'ils allaient donner du travail à leurs coreligionnaires ou à leurs compatriotes et qu'ils allaient construire la Jamaïque comme une terre promise. Et donc, Howell, après beaucoup de problèmes avec l'administration jamaïcaine, qui lui met évidemment des bâtons dans les roues, qui l'emprisonne pour un oui, pour un non, faut dire qu'il a la langue bien pendue. Il arrive de Harlem, il a l'a fermé, c'est pas du tout son truc. Donc, il s'exprime d'une manière qui éblouit le peuple noir et qui terrorise les colons. Et partout, il dit aux Noirs, mais arrêtez d'obéir aux Blancs. C'est une toute petite minorité qui ne peut rien contre vous. C'est votre pays. Cessez de leur obéir. Au lieu de leur donner, de leur payer des taxes à eux, donnez-les-moi à moi. Je vous garantirai une terre promise, un pays à vous, où personne ne pourra vous attaquer. Et c'est ce qu'il fait en achetant, en 1939, un immense... domaine colonial, assez montagneux, même très montagneux, où il va installer tous ses adeptes et créer une sorte de grand village qui, au départ, a quelques centaines d'habitants, mais qui aura jusqu'à 3 000, 3 500 habitants à la grande époque. C'est une communauté très pauvre. Il n'y a pratiquement pas d'eau. Il faut descendre 200 mètres pour aller chercher un peu d'eau. Mais pour la première fois, on n'embête pas les gens, on les laisse vivre comme ils veulent. Et c'est quelque chose que les fils d'esclaves n'avaient jamais connu. Et les filles d'esclaves, parce que les premiers adeptes sont essentiellement des femmes. Et donc, toutes ces femmes se réunissent sous la houlette de Howell. Howell lui-même a une épouse qui l'aide beaucoup, qui l'a aidé à acheter le terrain, qui l'a aidé à financer les premiers mois où personne n'a rien. Donc ces femmes déshéritées arrivent avec leurs gamins, elles viennent s'installer et elles attendent, elles sont prêtes à tout pour Leonard Howell et elles construisent avec lui cette première communauté qui
et
s'appelle
l'idée, c'est quoi,
le Pinacle.
L'autogestion pour prouver qu'on peut se libérer, être indépendant.
Ben, c'était vraiment le rêve de cette époque, c'est-à-dire nous ne demandons rien, nous demandons juste de la terre et la paix. Et avec ça, on pourra construire le pain, on pourra fabriquer le pain. C'est ce que disaient les Russes. Les Russes, c'était de la terre, la paix et du pain. C'est ce que disait Lénine en 1917. Et c'est ce que répètent les Rastas en 1932 ou en 1939.
Parce qu'ils sont Rastas, ceux qui vont rejoindre Howell dans ce lieu qui va s'appeler le Pinacle.
Le mot Rasta a été formé autour de 1934, lors du premier grand procès de Howell. Howell donc rentré en Jamaïque en 1932. Premier grand procès en 1934. Il aurait insulté la reine, il aurait... Bref, un énorme procès. Et c'est les journalistes qui inventent ce mot de Rastafarite. Et parce que c'est les adeptes de Rastafari qui est le nom de naissance de Haïlé Selassie, qui est le petit nom en quelque sorte de Haïlé Selassie. Donc ce nom de Rastafarite, inventé par les journalistes, va suivre les Rastas. D'abord, il désigne uniquement le groupe de Howell, Howell et son groupe, puisque c'est eux qui passent en procès, mais petit à petit, il sera généralisé à tous les autres petits groupuscules qui se forment autour ou en marge ou dans d'autres cadres, un peu sur le modèle du Pinacle. Chacun veut avoir son petit Pinacle où la police ne viendra pas nous embêter, où on pourra vivre comme on voudra, éventuellement en fumant de la ganja, comme les Indiens. Et en tout cas, en totale autosuffisance et sans avoir besoin de baisser la tête devant quiconque.
Pourquoi ça s'appelle le Pinacle ?
Ça s'appelait le Pinacle, c'était un... En fait, c'est un domaine qui date de l'époque des Espagnols. Ça devait être un poste de guet. C'est en bordure du plateau sud de la Jamaïque et ça... permet de surveiller toute la baie de Kingston, de Spanish Town, l'ancienne capitale. Quand on est là-haut, on voit vraiment le pays à 180 degrés. On voit 180 degrés de la côte et on peut voir arriver les bateaux bien avant qu'on les voit d'en bas. Et donc, je pense que c'est pour ça que le gouverneur de l'époque avait appelé ce domaine le Pinacle. Et en particulier le petit piton qui est vraiment à l'avant-poste du plateau et où était construite la Great House, c'est-à-dire la maison de maître des Espagnols de l'époque. Voilà donc notre pinacle, très pauvre au début, mais de plus en plus aisé, pourrait-on dire, puisque les gens cultivent, ils cultivent de quoi manger déjà, ils fabriquent des vêtements, et puis ils font des fêtes. Il y a plein de musiciens en ville, dès qu'ils ont l'occasion de monter au pinacle, ils vont faire la fête. Dès qu'il y a une fête au pinacle, ou bien une neuvième nuit après la mort de quelqu'un, c'est une nuit de réjouissance, tous les musiciens de Kingston se déplacent jusqu'au pinacle, ça fait quand même 12 km, pour le plaisir de passer la nuit à faire la fête dans cet endroit merveilleux, au-dessus d'une vue extraordinaire. Et c'est le tout début de la musique au pinacle. Mais Howell se dit que quand même, il faudrait quelque chose d'un peu plus africain que ce mento ou que cette pop, ou à la limite de ce jazz, parce qu'il y a aussi déjà des musiciens de jazz en Jamaïque et qui viennent au pinacle jouer et faire des bœufs. Et donc, Howell, lui, cherche quelque chose qui soit bien africain. Et comme il a vécu pas mal de temps à Saint-Thomas, dans l'est de l'île, où il y a énormément d'Africains de première génération, parce qu'après l'abolition de l'esclavage, on a quand même encore essayé de faire venir des Africains payés, très mal payés, mais payés quand même. Et donc, il y a encore des Africains de première génération. Et ces Africains ont des styles de musique, en particulier quelque chose qui s'appelle le Kumina, ou Pokomania. Les premiers tambours que Howell fait venir au pinacle, c'est un groupe de batteurs de Saint-Thomas qui jouent de la musique Kumina. Mais c'est une musique qui rappelle non pas le reggae, mais plutôt la musique de l'Afrique de l'Ouest, avec des rythmes qui sont tenus essentiellement par une petite percussion très aiguë, mmh, et des basses qui jouent en fait la mélodie. Et c'est cette musique qui servira de musique au pinacle pendant toute son existence. Aujourd'hui encore, quand il se fait des fêtes au pinacle, quand il se fait des fêtes dans la première communauté Howellite, ils ont été expulsés du pinacle, mais ils vivent encore pas très loin. Et lorsqu'ils font des fêtes, c'est encore ces non pas des tambours reggae ou des tambours nayabingi, comme on dit aujourd'hui, c'est des purs tambours Kumina, c'est-à-dire des rythmes africains arrivés au début du siècle dernier en Jamaïque. Donc ce pinacle voit en fait la cristallisation d'une nouvelle culture, d'une nouvelle philosophie, d'un sens économique basé sur l'autosuffisance.
D'un idéal rasta aussi ?
D'un idéal, oui, oui, bien sûr, d'un idéal rasta dans sa liberté, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il n'y avait pas de dogme rasta. Il n'y a toujours pas de dogme rasta, ou du moins il y en a tellement qu'aucun ne peut à lui seul représenter le mouvement rasta. Donc à l'époque, il y avait déjà toutes sortes de formes de la pensée rasta qui étaient en train de se cristalliser au pinacle, mais qui étaient basées avant tout sur le respect de l'autre. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'ai encore connu de ces vieux, et ils te disaient « je respecte ce que tu viens de me dire, mais moi, je pense un peu différemment ». Et l'idée de respecter la pensée de l'autre, même lorsqu'elle est différente, est vraiment essentielle au début du mouvement rasta. Après, il y a eu toutes sortes de petits groupuscules et de petits leaders qui ont voulu récupérer le mouvement et dire « c'est ça le mouvement rasta », mais ils n'y arriveront pas. Aujourd'hui encore, il y en a qui essaient de licencier, de déposer le mot rasta pour que personne d'autre qu'eux puisse l'utiliser. C'est pour dire à quel point ça va loin. Mais à l'époque, la liberté de penser, c'était vraiment une grande libre pensée alimentée par tous ces mouvements qui avaient balayé le monde au début du siècle et qui se retrouvaient concentrés dans le creuset du pinacle où chacun discutait, où chacun pouvait avoir son avis. Et donc, cette absence de dogme était vraiment typique du mouvement rasta des débuts. C'est lorsque le pinacle a été détruit.
En quelle année ?
D'abord le premier raid en 1954 et puis vraiment détruit en 1958. Ce qui fait 1939-1958, ça fait pratiquement 18 ans ou 19 ans d'existence, c'est-à-dire de quoi élever une génération, c'est-à-dire qu'on avait déjà une génération de Rasta née dans le mouvement Rasta lorsque le Pinacle a été détruit. Donc lorsqu'il a fallu attendre que le Pinacle soit détruit et ses habitants éparpillés à travers l'île pour que le mouvement prenne une nouvelle forme et entre autres se retrouve dans les ghettos de Kingston essentiellement. Parce que c'est là que les choses se passent à l'époque et que on est déjà en 58, on approche de l'indépendance qui aura lieu en 62 et dans ces ghettos il y a des tas de jeunes qui voient les Américains en train de faire leur propre musique, qui voient la soul, qui voient le blues, qui voient le jazz et qui se disent mais nous aussi on peut avoir notre propre musique et qui commencent à chercher dans une nouvelle direction qui n'est pas celle du Pinacle, qui est celle des jazzmen et celle des batteurs bourrous. Et c'est cette rencontre des jazzmen et des batteurs bourrous dans un milieu urbain qui va donner naissance au ska et bientôt au reggae.
Demain, on continue cette histoire du reggae, une autre histoire du reggae par Hélène Lee. Et demain, justement, on parlera de la musique. Quand le message devient une musique, 30 ans de création. À demain, Hélène Lee.
À demain.
Bonjour Daniel Incalquetera.
Bonjour.
On peut désormais voir au cinéma à Paris L'Impénétrable, un western contemporain qui se déroule dans le très reculé Chacos du Paraguay. Un western avec vraiment tous les codes du western, hein, c'est-à-dire une histoire d'héritage, des gangs de riches au-dessus des lois ou qui font les lois et qui se disputent des terrains, des indiens dépossédés, du suspense. Sauf que tous les personnages sont bien réels et que l'histoire se passe de nos jours et vous êtes tout à la fois l'auteur et l'acteur de cette histoire incroyable. Je peux la résumer en quelques mots. À la mort de votre père, vous héritez avec votre frère de 5000 hectares dans le Chacos. Cette terre, vous n'en voulez pas. Elle a même été l'objet de rupture avec votre père et vous prenez la décision de restituer cette terre aux Indiens qui vivent depuis toujours sur ce territoire. C'est une drôle d'histoire, mais c'est une histoire d'aujourd'hui.
Oui, c'est véritable, comme vous avez dit, un véritable western, tout simplement parce que dans cette région, il y a l'absence de l'État. Alors les règles du jeu sont les plus forts, les gens plus armés qui décident le futur de cet endroit.
Mais avant de parler du film et de votre aventure, comment faire pour restituer ces terres que vous avez héritées aux Indiens, parlons un peu de votre famille, de votre père. Vous êtes italien. Comment votre père a eu l'idée de vouloir acheter cette terre au Paraguay ?
Bon, oui, je suis italien. Mon père, à l'époque, était à l'ambassade italienne à Asunción, au Paraguay, comme fonctionnaire. Et c'était un homme d'affaires français qui s'approchait à mon père en disant « Il y a des terres en vente, des terres qui sont de la réforme agraire du pays, qui sont en vente à un prix très bas et qui sont des très bonnes terres pour produire de la jojoba, qui est une huile essentielle pour des produits de cosmétiques et pour les satellites. »
Alors, votre père, en tant que diplomate, ne pouvait pas acheter et, à son nom ces terres, puisqu'elles étaient destinées à ceux qui allaient la travailler. Il a une idée, c'est d'acheter cette terre et de la mettre à votre nom, au nom des deux fils, c'est-à-dire vous et votre frère.
Oui, parce qu'à l'époque, on pouvait acheter comme étranger qui allait se dédier à travailler cette terre. Il faut imaginer qu'à l'époque, on était plein de dictatures Stroessner. Et que normalement, les terres destinées à la réforme agraire, les dictateurs les destinaient à ses amis militaires, députés, ou aussi amis étrangers. Aucun réel bénéficiaire n'avait droit. Ça veut dire les paysans et les peuples originaires de la région, ils n'ont presque rien acheté.
Et vous en voulez à votre père d'avoir acheté cette terre parce que c'était pour vous une manière... De conforter cette dictature.
Oui, d'un côté, il y a cette idée de dictature.
Et de voler la terre aux Indiens.
Et surtout de voler de la terre qui ne correspondait pas à un pays, nous sommes italiens quand même, dans un pays étranger, et surtout décider un achat sans voir qu'est-ce qu'il y a dans cette terre. Ça veut dire, c'était décidé à table. Mon père n'a jamais mis les pieds dans cette propriété.
Mais alors, Daniel Incalquetera, c'est quoi l'histoire de votre famille? Parce que votre père est ambassadeur au Paraguay. Vous, aujourd'hui, vous habitez en Argentine.
J'habite en Argentine parce qu'à l'époque, je suis débarqué en Argentine avant du Paraguay et j'ai décidé de rester en Argentine à faire mes études universitaires. Et mon père, il a changé de mission et est allé au Paraguay. Et c'est comme ça que je suis resté en Argentine après... longue période de dictature militaire, je suis débarqué en Europe de nouveau, dans mon pays, en Italie, mais je n'ai pas trop résisté l'Italie, je suis débarqué en France, en 84, à faire des études de cinéma documentaire, et de là je commence à travailler comme documentariste, comme cinéaste en France, et après j'ai fait un tour de nouveau en Argentine, dans les années 92, avec un film sur les disparus argentins. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir des liens entre les deux pays, entre l'Argentine et la France, pour faire des films.
Et un jour, vous arrive donc cette histoire d'héritage, à la mort de votre père, vous héritez donc de cette terre au Paraguay, dans le Chaco, et... Vous refusez donc de la prendre, vous décidez de la restituer aux Indiens. Le film raconte cette histoire, cette envie de vouloir restituer cette terre. Ça ne va pas être facile, ça va même être très difficile. Et vous filmez tout ce processus. À un certain moment, on se pose la question, forcément, est-ce que vous vouliez restituer la terre aux Indiens parce que vous pensez que c'est légitime, ou est-ce que c'était pour vous, documentariste, une manière de faire un film et d'approcher justement cette réalité?
Non. L'idée de restituer la terre est devenue d'autres films qu'on a fait avec Fausta Quattrini, qui est aussi la co-réalisatrice de ce film, qui est aussi ma femme. On a passé 5 ans avec les Mapuches en Argentine. Et on s'est rendu compte qu'une des grosses difficultés de ce peuple originaire argentin, c'était les terres, le manque des terres. Et Fausta m'a dit, après cette longue expérience, cette très belle expérience aussi de vie, l'idée la plus juste, c'est que tu rends ces terres à son peuple originaire. Dans ce cas, c'était des Guarani Nyandevas, qui sont les habitants de cette région. Et moi, j'ai dit, OK, faisons rendons la terre, mais essayons de faire un film pour parler surtout, pas de la restitution de la terre, surtout de la conquête dévastatrice de cette région. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, le Paraguay, la partie du Chaco paraguayenne, c'est l'endroit qui a des forêts plus au monde. C'est 2 millions d'hectares par mois.
Alors, rendre cette terre aux Indiens, ce n'est pas évident.
Non, parce que...
D'une part, parce que vous ne pouvez pas accéder à ces terres que votre père a achetées et que vous héritez. Elles sont complètement encerclées par d'autres grandes propriétés, avec des propriétaires qui sont, on ne peut plus, puissants.
Oui, c'est... Je vous rappelle une chose importante pour le public. C'est 5000 hectares correspondent à un rectangle de 10 km par 5. Ça veut dire que ce sont 50 km carrés. Ça veut dire la moitié de la surface de Paris. Ça, c'est important à savoir. Ces 5000 hectares sont encerclés par les plus gros propriétaires de terre au Paraguay, qui s'appelle Tranquillo Favero, d'origine italienne et brésilienne.
C'est qui ce Tranquillo Favero?
Tranquillo Favero, c'est un des hommes plus puissants du Paraguay. Il a un groupe qui s'appelle Grupo Favero. Il est le principal producteur de soja et exportateur de soja transgénique du Paraguay. Mais il n'y a pas seulement ça, c'est que sa soja à lui, c'est un soja à lui, c'est pas Monsanto, c'est un soja qui produit lui-même avec des industries chimiques d'origine chinoise, paraît-il. Il produit ses semences, les vend à des 2000 producteurs de soja dans les pays. Et il est totalement indépendant dans la production de soja. Et aussi, il a 2000 têtes de bétail, et 200 000 têtes de bétail. Ça veut dire que c'est le principal producteur de viande dans le Paraguay. Et 2 millions d'hectares de propriétés dispersées dans les 14 provinces du pays. 2 millions d'hectares, c'est la moitié de la surface de la Suisse. Alors, j'avais ces messieurs-là qui entouraient ma propriété et était défendu sa grande propriété de 320 000 hectares par des hommes armés. Et tous les sentiers et les chemins qui amenaient
étaient bouclés
et fermés avec des hommes armés. Évidemment, pour réussir à rentrer dans cette propriété, j'ai dû faire des dénonces en justice, 3 avocats et un procureur pour y arriver.
Et on voit dans le film ce combat judiciaire pour pouvoir accéder seulement à ces terres.
Oui. Et après, on découvre aussi qu'il y a un double titre.
Ouais.
Pour vous dire, en Paraguay, c'est un des rares pays au monde que c'est sous plusieurs étages. Il y a des endroits qu'il y a 2-3 titres sur le même morceau de terre. Dans mon cas, il y a 2 titres. Ça compliquait encore plus la règle, parce qu'imaginez-vous, autre titre qui était vendu par le même État paraguayen à l'époque de la dictature à un député de Stroessner, qui est lui, à peine monté Lugo, qui a décidé dans sa campagne électorale, on va rendre les terres aux vrais bénéficiaires. Il y a à peu près 10 millions d'hectares la surface du Portugal, qui est en main des gens qui ont mal acquis ces terres. Ça veut dire qu'ils n'ont aucun droit d'avoir ces terres. Et c'est comme ça que Lugo a promis, pendant la campagne électorale, mais pendant son gouvernement, il n'a même pas réussi à rendre un hectare.
Et pourquoi, justement?
Parce que les intérêts des gros propriétaires, c'est qui décide la vie politique de ce pays. Il ne faut pas oublier que les députés et les sénateurs sont financé par les gros propriétaires. Et en plus, il y a les gros industries agroalimentaires, Monsanto, Cargill et des autres, qui font la règle du jeu. Et c'est eux qui imposent la politique, à la politique les règles du jeu.
Et pourquoi avoir intitulé ce film « L'impénétrable » ?
L'impénétrable, c'est le nom qu'ils donnaient les Espagnols à l'époque de la conquête. Les Espagnols pensaient, ils n'étaient pas, ils se trompaient pas. En traversant l'impénétrable, ils allaient directement vers l'or du Pérou. Et ça les permettait de transporter les matières précieuses directement du Pérou, Bolivie, vers l'océan Atlantique, vers le Brésil ou vers l'Argentine, sans passer par les Pacifiques. Ça allait économiser énormément de moyens et surtout des voyages très périlleux parce qu'il fallait passer par l'étroit de Magellan, qui est un des endroits plus dangereux à l'époque pour naviguer. Et c'était justement cette idée. Mais ils ne sont pas réussi à pénétrer. Il y a eu après différentes missions pour y arriver à pénétrer, mais je dirais que le Chaco, c'est une histoire que le Chaco, on le découvre il y a un siècle, et c'est une histoire qui a commencé il y a 50 ans avec l'arrivée des bulldozers.
Merci Daniel Incalcatera d'être passé ce matin. Je rappelle que votre film, L'impénétrable, sort aujourd'hui dans quelques salles. À vérifier sur le site de franceculture.fr, la page de l'émission Un autre jour est possible. Merci beaucoup d'être passé ce matin.
Merci à vous.
Dans un instant, les premières informations du jour sur France Culture, c'est l'actualité qui commence avec Marc Voinchet. J'espère vous retrouver demain pour un autre réveil culturel. Bonne journée sur France Culture.